Il y a quelques mois, nous avions parlé du pardon. Et je l'avais décliné dans un titre, le pardon, la guérison de nos maux, M-A-U-X. Et j'avais décliné ce pardon comme une source de liberté. Le pardon est libérateur. Je l'avais décliné aussi, le pardon, en étant source de santé spirituelle. Je l'avais décliné aussi en source de joie. Et je crois que cela est important. On a l'impression, et j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de la question, mais il n'en était rien. Le pardon est vaste et il y a beaucoup à dire. J'ai eu l'occasion d'aller en formation pastorale et j'ai eu l'occasion d'avoir un orateur qui s'appelle Jacques Buchol. Ceux qui le connaissent, il est professeur de la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Et il a écrit, entre autres, un livre, « Le pardon et l'oubli ». Et au cours de son exposé, j'ai relevé quelques notes. J'aurais pu démarrer ce thème ce matin, « Pardon, excuse, oubli ». Mais je voudrais aussi dire ce que le pardon n'est pas. Le pardon n'est pas l'oubli. Le pardon ne signifie pas s'excuser. Le pardon n'est pas synonyme de réconciliation. Le pardon ne s'impose pas. Le pardon n'est pas une démission de ses droits. Et le pardon ne change pas l'autre. Je voudrais dire quand même quelques mots sur ce que je viens de dire. Le pardon n'est pas l'oubli. Souvent les gens disent, eh bien il faut que tu ailles de l'avant. Trace un trait, tourne la page. Dans peu de temps tu t'en souviendras pas. Les professionnels de la psychothérapie savent combien on n'oublie jamais. Les blessures dites oubliées ont été enfouies dans l'inconscient et elles continuent de travailler les personnes. On est obligé de les faire émerger à nouveau pour être capable de les traiter. Pardonner ne veut pas dire oublier, cela veut dire cicatriser. On pourrait se souvenir de l'événement, mais on n'aura plus de ressenti intérieur. Une cicatrice ne fait plus de mal. C'est ce qui arrive lorsqu'on pardonne, on ne souffre plus. Le pardon ne signifie pas s'excuser. Excuser veut dire que l'on ne tient pas l'offenseur pour responsable de ses actes. On a tendance à lui trouver des circonstances atténuantes. On explique son geste ou ses paroles par la connaissance de sa vie. On minimise ses actes ou ses paroles. Bref, on le protège et on nie le mal qu'il nous a fait. Mais une faute n'est pas excusable, quand bien même on peut l'expliquer. Une faute nécessite le pardon. Saviez-vous d'ailleurs que lorsque Dieu se présente à Moïse, il se présente comme le miséricordieux, celui qui pardonne, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Et puis le pardon n'est pas synonyme de réconciliation. Encore une fausse idée. Qu'est-ce qui établit et qui maintient la relation ? La confiance mutuelle. Si la confiance est trahie, elle ne peut revenir par simple décision de la volonté. La confiance se gagne, se mérite, se construit. En l'occurrence, doit se reconstruire. Deux amis qui se blessent sévèrement ne peuvent pas décider que tout va continuer comme avant, d'un claquement de doigts. Réconciliation et pardon ne sont pas identiques. La réconciliation est une suite de pardons à souhaiter, mais ce n'est pas systématique. À la suite d'une blessure, il faut décider, est-ce que je continue cette relation? Est-ce que je peux l'approfondir? Sinon, elle s'arrêtera tout simplement car elle a été rompue. Le pardon ne s'impose pas. Le pardon est un acte d'amour. Pardon. Pardon. La personne qui pardonne doit demeurer libre de son choix. Obliger quelqu'un à nous pardonner, c'est lui dire « Je veux que tu m'aimes, malgré les vacheries que tu m'as faites. » On peut le souhaiter et le demander. On ne peut contraindre l'autre à le faire, sinon ce n'est plus un pardon. Le pardon n'est pas une démission de ses droits. Le pardon ne vient pas éliminer la justice. Un voleur pardonné n'est pas dispensé de rendre son bien à autrui. Le pardon n'enlève pas non plus les conséquences d'un acte ou d'une parole malheureuse. Pardonner un meurtrier ne ramène pas à la vie la victime. Le pardon n'est pas un acte de justice. C'est une démarche d'amour pour la réhabilitation de l'offenseur, de son être. C'est le dissocier du mal qui l'habite et qui l'a conduit à mal agir et à ne pas le condamner avec. Le pardon ne change pas l'autre. Quand on pardonne quelque chose d'extraordinaire se passe, qui nous guérit, nous libère, mais il ne faut pas pardonner en pensant que c'est ce qui va faire changer l'autre. L'offenseur pourra prendre conscience de sa conduite et changer de comportement et d'attitude intérieure, mais on n'a pas le pouvoir sur l'autre. Il reste libre et responsable de reconnaître ou non sa faute. Donc ce matin, nous allons voir une deuxième partie, j'allais dire, de cette étude sur le pardon et le pardon et l'oubli. Comme nous venons de le voir, c'est pas facile d'oublier. Je me souviens pendant des années, malheureusement, j'ai prêché le pardon et qu'il fallait totalement oublier. Et après réflexion, et après étude, après lecture, je me suis aperçu que c'était pas ça. Pas dans le sens que je croyais. Dans la prière que le Seigneur nous a enseignée et que nous prions si peu en assemblée, la seule requête qui vise directement nos relations avec autrui est liée à la question du pardon. Quand vous priez, Père, pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui nous ont fait du tort envers nous. Luc. Sans se confondre avec lui, le chemin vers Dieu passe vers le prochain. Pour les disciples du Seigneur, pardonner n'est pas facultatif. C'est la condition du pardon divin. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, si. Il y a une condition. Si. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est la même mesure. Et c'est la mesure même. De la même manière quand le comme, vous savez, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ah, j'ai toujours buté sur ce comme. Comment moi je puis pardonner comme Jésus? Mais c'est impossible. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis même pas Jésus. Et le texte nous dit, pardonnez comme je vous ai pardonné. Mais Seigneur, ton comme à toi, c'est pas de la comme. C'est quelque chose de plus profond que cela. Il n'y a que toi qui peux pardonner de cette manière-là. Moi, j'en suis incapable de pardonner aux hommes comme toi. Et pourtant, c'est l'engagement que prend nécessairement celui qui réclame la grâce du Seigneur. Car Vous savez, il y a des petits mots dans la Bible, des si, des comme, des car. On les occulte facilement. Mais ils ont été là des conjonctions de coordination et qui sont liées ensemble, qu'on ne peut pas dissocier. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. Mais alors, ça devient compliqué tout cela, vous ne trouvez pas? Je pensais que le pardon c'était si simple, mais vous savez bien que c'est pas si simple que ça. Vous savez bien que c'est pas si simple que ça. C'est difficile de pardonner, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on vous a fait une vacherie, excusez-moi du peu, ou du mot. Ah oui, je pardonne, mais si, je n'oublierai jamais. Non? Et je me suis toujours battu contre ça en disant, ah mais si tu dis jamais, c'est pas possible. Et qu'est-ce que tu fais du verset qui te demande de pardonner comme Jésus t'a pardonné? Oh, Seigneur, c'est compliqué. Alors, comment faut-il comprendre ce pardonner? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, serait-ce oublié, car... comme l'annonce le prophète, lorsque le Seigneur pardonne, il oublie notre iniquité. Dans Jérémie, il est dit, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Oh, alléluia, amen. Dieu ne se souvient plus de mes péchés, mais je me souviens des péchés de celui qui m'a fait du mal. Oh, est-ce possible cela? Oui, mes frères et sœurs, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Il n'y a que Dieu qui peut les oublier, puisqu'il nous est dit que nos péchés les enfouit dans le fond de la mer. Alors, alléluia, il les a noyés à jamais. Ah, Seigneur, merveilleux, je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Mais alors, pour moi... comment faut-il entendre un tel oubli? Parce que souvent, quand on nous a fait du tort, quand on nous a blessés, lorsque notre chair a été meurtrie, lorsque notre esprit a été martyrisé, et qu'on ne peut plus se défaire de cette faute-là, il n'y a pas un sentiment de colère? Dites-moi la vérité, on n'est qu'entre nous. Il n'y a pas un sentiment de colère qui monte? Il n'y a jamais eu de sentiment de colère? Vous pouvez m'affirmer ce matin qu'il n'y a jamais eu de sentiment de colère lorsque quelqu'un vous a fait du mal? Vous n'avez jamais crié à l'injustice? Ah, wow! Mais comment puis-je oublier colère? Et colère ou oubli. De même que le péché attriste Dieu et son esprit. On trouve ça dans les psaumes, dans Isaïe, dans Éphésiens. Il y a plein de versets qui nous parlent de cela. Mais l'offense, mes frères et sœurs, nous inflige une blessure. Et cette blessure-là, il faut la soigner. Notre sœur est tombée là en venant à la réunion vendredi. Il y a quelqu'un qui lui a tiré les pieds et puis d'un seul coup, elle est tombée par terre. Ben oui, mais elle a dû aller à l'hôpital. Et donc, elle s'est blessée. Bon, elle n'a pas voulu dire que c'était son mari qui l'avait tapée. Vous ne le répéterez pas. Non, c'est pas vrai. Non, c'est trop sérieux, pardon. Trop sérieux. Oui. Colère. Ou oubli. Dans les passages dans la Bible, souvenez-vous d'Anne qui a pleuré face aux moqueries de sa rivale Pénina parce que Anne ne pouvait pas avoir d'enfant et l'autre, elle pouvait en avoir. Elle disait, ah, là, là, là. Moi j'ai des enfants, puis toi t'en as pas, patati, patata. Croyez pas que... à un moment donné, ça monte un petit peu, quoi. Pensez à Jésus, hein, qui était venu dans Jérusalem, et il pensait que tout le monde allait l'accueillir à bras ouverts. Non, Jésus a pleuré sur Jérusalem. Ils ont fini par le clouer au bois. Même son ami Pierre l'a renié. Dites-moi, vous n'avez pas remarqué quand vous traversez des difficultés, quand tout le monde est contre vous, même vos amis vous lâchent. J'ai connu ça, vous savez. Quand vous êtes adulé, quand vous avez de la renommée, quand vous avez du succès, quand vous avez de l'argent, d'un seul coup, vous avez tout le monde autour de vous. Mais le jour où vous perdez votre boulot, vous êtes au chômage. Le chômage dure, les jours passent. Et bien, au fur et à mesure que les jours s'allongent, les amis diminuent. Je vous le dis parce que je l'ai vécu. Oui. Et même lorsque vous avez raison et qu'on préfère croire au mensonge, vos amis vous abandonnent. Oui. Alors oui, il n'est pas étonnant que blessé par l'offense, nous nous livrons souvent à l'amertume. Nous nous livrons à la colère. Telle a été la réaction des frères de Joseph qui, face à sa pratique de la dénonciation aux attitudes de favoritisme de leur père Jacob, eh bien, ses frères, ils l'ont pris en haine. Ils ne pouvaient même plus lui parler aimablement. Lorsque Joseph raconte ses rêves à ses frères et qu'il leur dit que dans son songe, eh bien, ses frères vont se prosterner devant lui, alors là, ça, ils ne peuvent pas supporter. Ils ne peuvent pas supporter cela. Et ils deviennent agressifs. Il est même dit, ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Genèse, chapitre 36. Et on sait ce qui est devenu. Alors la question qui se pose, mes frères et sœurs, est la suivante. La réaction de colère face à l'offense est-elle toujours un mal à notre nature pécheresse? N'est-elle pas une réaction légitime face au péché? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? La colère est-elle un mal dû à notre nature pécheresse? N'est-elle pas une réaction légitime face au péché? Parce que nous considérons que celui qui nous a fait du mal a péché. Non? Ben oui. Donc c'est une injustice. Et cette injustice nous met en colère. Parce qu'elle est contre nous. Et c'est vrai que l'Écriture nous montre, en effet, que nous, croyants, chrétiens, nous ne sommes pas appelés à rester indifférents face au mal. Il y a de nombreux psaumes dans l'Ancien Testament qui le soulignent. Lorsque dans l'Apocalypse, on nous parle des âmes des croyants égorgées. Il nous est parlé aussi de Jésus dans Marc 3. Jésus a su se mettre en colère quand il le fallait. Rappelez-vous quand il a chassé les vendeurs du temple qui faisaient leur petit trafic là. Ils se servaient de la religion pour gagner du fric. C'est l'apôtre Paul qui reconnaît qu'il y a une place quand même pour la colère. Alors, je ne parle pas de ceux qui sont colériques d'une manière pathologique, hein, qui se mettent en colère pour un oui ou pour un non. Faut pas servir du verset de la Bible pour se mettre en colère. Je pourrais dire, hein. Oui, mais c'est écrit dans la Bible que je peux me mettre en colère. Ah ouais. Ah bon. Il y en a qui ont une façon d'interpréter la parole de Dieu vraiment légère. Oui, l'apôtre Paul reconnaît qu'il y a une place pour la colère dans la vie du chrétien, Éphésiens 4, chapitre 26, 9. Et surtout, l'Écriture mentionne à plusieurs reprises la colère et la haine de Dieu contre le péché et de ceux qui le commettent. Hein. Lisez la Bible. Nous n'assistons jamais aux offenses qui nous sont faites comme de simples spectateurs. Non, nous en sommes souvent les victimes. Elles déclenchent en nous un processus d'évaluation du mal. Eh oui. J'ai envie de dire ce matin que la colère est l'aboutissement normal. Non pas conforme à la norme divine, hein, je le souligne. Mais elle est le signe d'une bonne santé spirituelle. Vous n'avez jamais entendu ça, hein? Non. J'ai dit quelques-uns vendredi. Vous allez être bousculés ce matin. Eh oui. Ne pas réagir, voilà ce qui est anormal. Ben oui. Donc, vous voyez. Vous êtes obligé d'accepter l'un ou l'autre, hein, ou les... à un moment donné. Parce que c'est pas normal si vous ne réagissez pas quand on vous a tapé sur la joue. Et qu'est-ce que vous faites quand on vous a tapé sur la joue? Ah oui, vous êtes pour l'équilibre. D'accord. Ah d'accord. Bon, je m'éloignerai de vous, hein. J'ai pas, si j'en reçois une, j'ai pas envie d'en recevoir deux. Eh oui. Ah, voilà. La colère est l'aboutissement normal. C'est, j'aimerais dire, conforme à la norme biblique, ou divine, comme vous voulez. Elle est le signe d'une bonne santé spirituelle. Ne pas réagir ainsi, voilà ce qui serait anormal. Certains submergés par leurs sentiments de colère qu'ils ressentent, les refoulements, écrasés par la culpabilité que ces sentiments de trouble suscitent en eux et tombent parfois dans la dépression. Il y en a qui refoulent ça tellement en eux qu'ils finissent par péter les plombs. Wow. Et les psychiatres, je vais vous apprendre cela ce matin si vous ne savez pas, savent que l'un des premiers signes du rétablissement est la colère. Il faut évacuer quelque part. On ne peut pas refouler les choses comme cela. C'est à partir de ce moment-là que l'offensé se retrouve ses marques. Il parvient enfin à s'exclamer au sujet de ce qu'on lui a fait. Et il peut dire, c'est pas juste. C'est pas normal. Il peut le dire, il peut l'exprimer, il peut le crier s'il veut. Je le dis ce matin, le pardon n'a rien du refoulement amnésique de l'offensé. Parce que pardonner, qu'est-ce que c'est, mes frères et sœurs ? C'est oublier. L'amertume. C'est guérir de son amertume, mes frères et sœurs. C'est cela. Et là, je reviens sur ce que Paul disait quand il dit « Mettez-vous en colère », Éphésiens 4, 26. Mais il ajoute aussi autre chose, « Ne péchez pas ». Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation ou sur votre colère. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. qu'il faut régler les choses rapidement. Il y a des gens qui vivent avec des choses, des poids dans leur cœur, dans leur subconscient, parce que ça va jusque dans le subconscient. Et ça ressort des années après. Tu te souviens ce que tu m'as fait? Oui, mais tu m'as pardonné. Donc c'est pas un vrai pardon. C'est pas un vrai pardon. Le danger pour le croyant, c'est de s'enfermer dans sa colère, contrairement à Dieu qui est, lui, lent à la colère. Exode 34:6. Oui, bien entendu, juste réaction face au mal. Notre colère dégénère trop souvent. Oui, dégénère trop souvent en volonté de destruction, alors que Dieu tempère la sienne par son désir de sauver. Ézéchiel 18, 23. Ça rejoint ce que Paul dit dans 1 Timothée, chapitre 2. Cela est bon, agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi, pour bon nombre de chrétiens, le pardon serait une autothérapeutique de la colère, un traitement de la blessure, de l'offense, qu'il s'agirait toujours d'entreprendre, quelle que soit l'attitude de l'offenseur. Un pasteur a écrit: pardonnez comme Jésus, c'est accorder votre pardon avant que votre offenseur vous demande pardon ou réalise même le besoin d'être pardonné. L'Écriture, en effet, nous invite à ne pas répondre à l'offense par une autre offense, à abandonner notre ressentiment, à nous décharger sur le Seigneur de nos griefs contre autrui. C'est d'ailleurs ce que Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Parce que Dieu fait toujours justice. Pas au rythme qu'on voudrait. Je peux vous dire, il y avait des choses, j'allais dire, que j'ai vécues, et ça a pris 10 ans avant que Dieu règle les problèmes. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui vas régler le problème. Et c'est vrai que tous les jours qui passaient, les années, les mois qui passaient, les années qui passaient, je me disais, Dieu, tu fais rien. Mais tu fais rien, c'est pas juste. Tu laisses le mal encore continuer et prospérer encore. Et nous en subissons encore les conséquences. Alors, Seigneur, fais quelque chose. Ça fait 10 ans. C'est le temps de Dieu. Mais la chute a été terrible. La chute a été terrible. Parce que c'est Dieu qui le fait. C'est pas moi en tant qu'homme. Mais je dis, Seigneur, fais-moi justice. Seigneur, fais-moi grâce. Nous avons trop souffert. Nous avons été trop malheureux. Mon épouse, moi-même. Je dis, Seigneur, fais justice. Dieu, moi je me disais, mais Seigneur, il va régler le problème en 2 coups de cuillère à peau, ça va être fait. Eh bien non. Mais Dieu a fait. Est-ce que j'en suis heureux, plus heureux pour cela? Non. Dieu a fait sa justice. Mon ressentiment, ma souffrance, elle est partie. J'ai pardonné. J'avais déjà pardonné avant. Il y avait plus de 10 ans que j'avais pardonné. Et c'est un soulagement. C'est un fardeau, un poids qui est parti. Totalement, entièrement. Oui, voilà ce que Dieu fait. Dieu nous apprend qu'il nous faut aimer notre prochain, mais il nous apprend à aimer aussi nos ennemis. Oui ou non? Eh bien là, il veut nous apprendre à ce que nous aimions l'offenseur qui nous a offensés. Pourquoi je dis cela? Parce que Paul en parle dans Romains chapitre 12, verset 20. Si celui qui te veut du mal a faim, qu'est-ce que dit la Bible? On va dans le profond, là. Hein, je l'ai dit vendredi, hein, que ça allait taper ce matin. Eh oui. Et s'il y a soif, je vais lui donner à boire. C'est biblique. Je suis navré. Et souvent, il y a des divisions dans les familles. Ah ben, je ne veux plus te voir, c'est fini, terminé. Avec tout ce que tu m'as fait, je ne veux plus te voir. Je ne veux plus t'entendre. Et le jour qui vient dans ton église, comment tu fais? Et quand c'est des chrétiens, alors là, c'est encore plus abominable. Ils ne sont même pas capables de s'asseoir l'un côté de l'autre. Attendez. Il y en a un qui est dans une église et l'autre dans l'autre. Mais les chrétiens auront des comptes à rendre à Dieu. Croyez-moi. Il faudra les régler, ces comptes-là. Et avant l'enlèvement et le retour du Seigneur. Je le souhaite et je prie pour cela. C'est pour ça que Dieu me met à cœur cela. Oui, mes frères et sœurs. Oui, celui qui te veut du mal, s'il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Alors cependant, cette remise des griefs du Seigneur, qui est la clé de la libération de l'amertume, n'est-ce pas ce que l'Écriture appelle le pardon, mais uniquement son nécessaire préalable? Car pardonner, ce n'est pas effacer la blessure de l'offense, mais sa dette. Parce que votre blessure ne sera jamais effacée. Elle sera là, telle une cicatrice, mais qui doit être guérie. Quand vous êtes blessé, et tu le verras dans quelques jours, tu souffres là un petit peu, pas beaucoup, beaucoup, j'en sais rien, mais dans quelques jours, tout ça va disparaître, il te restera une petite trace. Tu te souviendras là, ah tiens, là, c'est quand je suis tombé en allant à la réunion. Tu en rigoleras. Eh bien, pour l'offense, ça sera la même chose. Oui. Pardonner, oublier l'offense. Selon l'Écriture, en effet, l'offense n'est pas seulement une blessure à laquelle répond la colère de l'offensé, mais aussi une dette qui se loge entre l'offenseur et l'offensé, car toute offense est avant tout un péché qui demeure devant Dieu. Si ton frère a péché contre toi, ah tiens, on revient. Si ton frère a péché contre toi, ben oui, il a péché contre toi, il t'a fait du mal. Il a dit des choses mauvaises contre toi. Ou c'est peut-être toi qui as dit des choses sur ton frère et qui a fait mal à ton frère. Or, c'est cette dette que le pardon biblique vise à remettre. Le pardon biblique n'est pas une thérapeutique que l'on s'applique à soi-même dans le secret de sa chambre et de son cœur, mais une réalité que l'offensé octroie à l'offenseur. Il est toujours un événement qui a lieu entre eux. Tel est précisément ce qu'est le pardon de Dieu, car c'est aujourd'hui que Dieu nous pardonne lorsque nous nous tournons vers lui pour lui avouer nos fautes et croire en sa grâce. Deux enseignements scripturaires découlent de cette compréhension du pardon. Premièrement, le croyant qui a su remettre ses griefs au Seigneur et renoncer à son amertume est invité à aller vers son offenseur pour lui offrir son pardon. Matthieu, dans 18,15, nous dit « Va, va te réconcilier avec ton frère. » Et ce qui est étrange, et pas si étrange de la part de Dieu, c'est que c'est nous, l'offensé, qui devons aller. Souvent, je me suis dit que c'est lui qui m'a fait du mal, c'est à lui de venir vers moi. Hein? C'est normal, après tout. Ben, c'est toi qui veux. Non. Oh là là. Ah, Dieu nous demande des choses compliquées, hein, vous ne trouvez pas, hein? Mais c'est biblique, hein. Je suis navré, mais je reste biblique. Et pourquoi il dit, qui sait si tu ne vas pas gagner ton frère ou ta sœur? Montre que tu es un vrai chrétien. Montre que tu es un bon chrétien. Que tu es un chrétien évangélique, comme ils disent tous. Moi, je ne vais pas dire ça. Montre que tu es déjà un chrétien, ça fera ce que tu veux. Oui. Va. Il s'agit de gagner. Car c'est l'offensé qui. C'est l'offensé qui est à cause de la dette. Et c'est lui le grand perdant. Deuxièmement, la remise de la dette de son offense passe par sa repentance. Car elle seule autorise l'offensé à pardonner. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Car ne plus se souvenir du péché à l'exemple de Dieu. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Jérémie 31, 24. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, mes frères et sœurs, sur le pardon et l'oubli. Nous allons prier pour que Dieu fasse que nous retenions ce qui a été dit ce matin. Vous pourrez sans doute le regarder sur notre site et le réécouter si besoin était. Parce que je crois que le pardon, c'est quelque chose qui est récurrent et que nous devons, nous en tant que chrétiens, appliquer, que nous devons vivre. Et c'est comme cela que les églises peuvent vivre en harmonie, elles peuvent grandir, elles peuvent vivre de l'amour du Seigneur, mais si en son sein, au sein de l'Église, il y a un manque de pardon, alors l'Église ne peut pas progresser. Elle ne peut pas grandir. Pour ça, c'est important. On peut apporter un message d'une manière dynamique, un peu humoristique, si on veut, mais mesurons la profondeur du message. Dieu parle à plusieurs ce matin. Vous ne pourrez pas sortir de ce lieu sans rester indifférent à ce que vous venez d'entendre. Certaines ont des choses à régler. Il faudra les régler. Sans doute le plus vite serait le mieux. Mais des fois, ça fait peut-être tant d'années que les choses existent. Et si vous voulez qu'on prie pour vous, on peut prier pour vous, pour que Dieu vous aide dans ce sens. Je crois que c'est important parce qu'il y va de votre salut en premier. Il y va de votre guérison. Guérison intérieure, hein, je parle. Mais ça peut être aussi guérison. Guérison des maux. Il n'y a pas bien longtemps, j'écoutais une émission à la télévision où maintenant, de plus en plus, les médecins, les chirurgiens avant une opération, eh bien, font venir un psychologue, un psychiatre, et ils parlent avec les personnes qui vont être opérées. On s'aperçoit qu'il y a des personnes qui vivent très mal ces moments d'opération et de choses. Et ils sont amenés à parler, et notamment, ils abordent souvent le sujet du pardon. Et ils sont étonnés de voir combien... Ah oui, pardon. Ils sont étonnés combien les gens ont des choses sur le cœur. Et une fois qu'ils se sont confiés, alors il y a comme un soulagement, fardeau qui est parti, et ils peuvent aborder l'opération sans appréhension, et les choses se passent bien. Donc je vous donne cela parce que même, vous savez, les chirurgiens aujourd'hui utilisent cela parce qu'ils se rendent compte que les gens viennent tellement chargés que bien souvent, vous savez que le manque de pardon déclenche aussi des maladies. J'en ai parlé dans l'étude précédente, hein, c'est la guérison de vos maux. Hein, donc voilà, hein, soyons conscients qu'il n'y a rien d'anodin avec le Seigneur et que Dieu est le Dieu du miracle. Le Dieu, c'est celui qui pardonne toutes nos iniquités, hein, tous nos péchés. Mais nous aussi, nous avons des choses à faire. Puissions-nous les faire encore, et maintenant, et plaçons-nous devant le Seigneur pour nous aider, hein, aller plus loin avec lui, faire ce que nous devons faire vis-à-vis d'un proche, vis-à-vis d'un parent, vis-à-vis de, que sais-je, de, peut-être de votre patron, hein, de votre belle-mère, je ne sais pas, moi, hein, de votre beau-père, ou etc. Il y a des tas de choses, vous savez, hein, de vos parents. Vous savez, il y a une multitude de choses à explorer. Alors prions le Seigneur pour que vraiment Dieu œuvre ce matin.